une précision.
On n'entend pas très bien, effectivement.
Oui. Vous avez dit que la psychanalyse faisait partie des sciences...
Excusez-nous parce qu'il ne marche pas, vous avez raison.
Oui. Ça marche?
Il faut peut-être la prochaine, oui. Un petit peu près.
Vous avez dit que la psychanalyse faisait partie des sciences positives. Quelles sont les sciences positives, d'après vous? Non, vous pensez à quoi?
Ne serait-ce que peut-être la pensée positive, c'est-à-dire la méthode Coué. Bon, moi, j'ai pas une expérience particulière de terrain, mais effectivement, bon, j'aime pas non plus le cliché, parce qu'il peut toucher des affects chez certains. C'est le coup de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est-à-dire que si on se lève le matin en attendant la tuile qui va nous tomber sur le nez, ben on va la recevoir. Alors c'est vrai que lorsqu'on se lève le matin, souvent on n'est pas bien parce que, excusez-moi, on a aussi eu pas mal de problématiques la veille ou les jours qui ont précédé. On peut avoir de gros soucis personnels aussi. Eh bien, c'est vrai qu'on va toujours avoir donc cette pulsion de mort appelée Thanatos, même si Freud ne s'est pas gargarisé de ce terme d'ailleurs. Bien qu'il va venir nous enquiquiner dès l'instant où on se réveille. Bien, il faut essayer de la chasser, se dire, bon d'accord, bien, dans ce miroir très négatif, il va falloir aller chercher ce qui est positif. Je ne sais pas si je n'ai pas fait un lapsus révélateur d'ailleurs, compte tenu de l'analité. Alors, c'est en fait facile et on se demande pourquoi on est aussi masochique dans nos comportements, dans la mesure où nous sommes quand même bipolarité. Nous sommes plus et moins. Et malgré tout, on a toujours cette propension à aller se faire du mal. Alors c'est vrai, mais c'est bien parce que vous permettez aussi de souligner qu'il y a donc eu des courants positivistes, même si le terme est discutable, hein, mais on ne va pas rentrer là non plus dans un débat philosophique, mais il y a eu effectivement des courants donc positifs qui ont aussi permis à la psychanalyse d'exister. D'ailleurs, sur le parcours de Freud, notamment en tant que chercheur, il a aussi fait avancer les choses car il s'est rendu compte à une certaine période de sa vie qu'il était très parano. Alors, il voyait le mal partout, il avait l'impression qu'il était rejeté, exclu, il avait pas mal de conflits. Et en fait, il vivait un isolement jusqu'au jour où il s'est dit ben, « c'est peut-être à moi de voir aussi les choses d'une façon tout à fait différente ». Et c'est là où véritablement il a avancé dans ses travaux. De toute façon, on le sait, je ferai un mauvais jeu de mots, mais c'est le sésame ouvre-toi. Hein, on sait très bien que pour bloquer une porte, il n'y a rien de tel. Hein. On commence à se dire je ne peux pas, ou je ne vais pas aller là parce que cet autre m'enquiquine, ou je n'ai pas assez d'argent pour faire ceci, etc., etc. On peut parler de Psychanalyse Magazine dans ce sens-là. J'avais été très, très titillée par quelqu'un de fort désagréable dans la presse, expliquer que les instituts de psychanalyse privés, je vais être très vulgaire, je vais rester sur l'analité, c'était de la merde. Et un jour, dans mon entourage, j'ai dit, ah ben, il y a monsieur Intel qui explique que nos instituts ne sont pas sérieux, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on mette en place une revue? Sans aucun argent, hein, il y a des gens qui nous ont fait confiance, hein, ça a été nos deniers personnels, hein, et c'est toujours d'ailleurs nos deniers personnels. Et puis des gens, je pense par exemple à la société de distribution de presse MLP, qu'il faut remercier, qui nous a fait confiance parce que lorsqu'on va dans un kiosque, on a l'impression que c'est très facile d'acheter une revue. Mais si vous saviez comme il est compliqué de se retrouver en kiosque, il faut à la fois des partenaires extrêmement intelligents, bien sûr très ouverts, mais il faut aussi que nous soyons très prudents quant à notre position. Alors en ce qui me concerne, donc en tant que directrice de publication de cette revue, j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses dérangeantes ou négatives, bien que je n'ai pas du tout un tempérament tiède. Ça répond à ce que vous vouliez savoir. Vous êtes frustré?
Oui. Je sais pas. En ce qui me concerne, non, je pensais que vous pensiez, je croyais que vous pensiez à quelque chose de très défini. Non. Quand vous parliez de science, que vous puissiez mettre une étiquette sur ce mot-là.
Non, pas du tout. D'abord, peut-être que ça ne va pas avec mon caractère, puis je n'ai pas d'expérience dans ce sens-là. Par contre, je connais la pensée positive. À mon avis, bon, ce n'est pas le débat, là. Elle a aussi ses limites, c'est-à-dire, par exemple, la pensée positive est plus envisagée en tant que psychothérapie. C'est-à-dire que, justement, tout ce qui touche à cette méthode-là, en fait, nous fait prendre conscience, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, qu'au lieu d'envisager la vie ou tout partenaire, encore une fois, qu'il soit social ou affectif, de façon négative, eh bien, on peut peut-être aussi essayer de le voir autrement. Non pas du tout que je veuille vous évangéliser hein, dans mon discours, hein, je ne veux pas du tout mélanger la religion, ce n'est pas du tout mon propos hein, ni mon tempérament, mais je pense à une de mes élèves un jour qui est une jeune femme qui enseigne le catéchisme et plusieurs d'entre nous étions intéressés par le fameux tendre l'autre joue. Parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas cette sagesse-là ou j'en ai pas assez, bien que j'essaie un peu de progresser. Et en fait, elle nous a donné une explication très intéressante, qui est une explication... Elle nous disait que lorsque le Christ, donc symboliquement, a voulu dire cela, eh bien, ce qu'il essayait d'induire, c'est que lorsque quelqu'un nous donne une gifle, le fait de tendre l'autre joue, c'est peut-être lui faire prendre conscience qu'on est peut-être autrement aussi que ce qu'on a pu le croire.